Le thème que nous avons choisi pour cette année, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est mieux servir notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons apprendre à mieux le servir. Et pour apprendre à mieux le servir, nous avons dit que nous devons apprendre à mieux l'adorer. Nous avons apprendre à mieux nous équiper. Je crois que c'était ça, hein? Mieux le servir et mieux aussi semer. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous avons considéré dans ce cadre, mardi soir, le fait d'être disciple de Jésus-Christ. Et nous avons noté, selon un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 14, qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient route avec Jésus, mais Jésus ne considérait que faire route avec lui n'était pas équivalent à marcher vraiment avec lui. On peut faire route avec Jésus et ne pas être son disciple, ne pas marcher avec lui. Il disait que celui qui veut être son disciple, eh bien, doit considérer ce que cela veut dire, le coût que cela vaut, que cela demande, et puis qu'il doit s'engager avec persévérance. Mais on pourrait aussi dire qu'il y a beaucoup de personnes qui prétendent servir aussi le Seigneur. Mais qu'en pense Jésus en réalité? Considère-t-il cela comme un véritable service? Et nous avons une réponse à cela dans une petite histoire de l'évangile de Luc, qui est très courte, très concise, mais aussi très, très riche pour nous en enseignement. Alors, on va lire Luc au chapitre 10 et nous allons avoir l'histoire de Jésus dans une famille, verset 38, la famille de Marthe et de Marie, que vous connaissez sans doute pour avoir lu plusieurs fois cela. Nous allons donc lire la parole de Dieu, ici c'est versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Voilà, donc cette petite histoire dans un petit village à côté de Jérusalem, village où Jésus se rendait apparemment assez et passé plusieurs fois. Une petite maison dans ce petit village est en effervescence parce que dans cette petite maison, il y a une visite importante, la visite de Jésus avec ses disciples. Et donc la maison est certainement sens dessus-dessous, on peut imaginer, imaginez-vous à la place de Marthe et Marie, hein, à cette époque, Jésus vient chez vous avec des disciples, je ne sais pas s'ils étaient tous les 12 là, mais c'est 12 gars qui mangent bien, il faut préparer des choses, il faut les accueillir et certainement ça met une certaine pression dans le foyer. Peut-être Jésus avait-il prévenu avant qu'il allait venir, et donc les sœurs se sont peut-être préparées avant à le recevoir. La Bible ne le dit pas, mais peu importe, il fallait quand même préparer des choses pour recevoir ces personnes. Et Jésus arrive, et Marie, peut-être ne voulant pas le laisser seul, peut-être la discussion s'amorce avec ses disciples, elle ne veut pas le laisser seul, elle s'installe au pied du Seigneur et puis elle se met à écouter ce que Jésus enseigne. Probablement, il enseigne à ses disciples. Et puis Marie vient et elle s'assoit pour écouter ce que Jésus enseigne aux disciples. Et puis voilà Marie qui oublie la cuisine, hein, qui oublie sa sœur dans la cuisine, qui s'installe paisiblement. Et puis peut-être Marthe qui attend un coup de main qui n'arrive jamais. Et puis son cœur commence à être impatient et à un moment, elle ne peut plus. Elle sort de la cuisine, elle arrive et elle dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et je peux supposer que, je ne sais pas, on peut imaginer que Jésus est en train de parler, Marthe surgit et puis voilà, et elle interrompt. Et puis tout le monde écoute ce qu'elle dit. Et puis, puisqu'elle s'adresse à Jésus, tout le monde attend ce que Jésus va dire. Ce qu'il va dire à Marie, c'est vrai, ta sœur a besoin d'aide. Tu devrais aller l'aider un peu. Ou est-ce qu'il va dire à Marthe, oh, c'est pas grave Marthe, laisse tomber, viens et assieds-toi ici comme ta sœur. Eh bien Jésus, il ne va pas faire cela il ne va pas apporter la réponse que nous attendons. Je pense que si ça nous avait été caché, on n'aurait pas imaginé la réponse, un seul instant la réponse de Jésus. Le Seigneur Jésus répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et c'est tout ce que Jésus dit. Et c'est la leçon que doit retenir Marie. C'est la leçon que doit retenir Marthe et c'est la leçon aussi que nous devons retenir. C'est la réponse à laquelle on ne s'attend pas. On s'attendrait certainement à quelque chose de plus consensuel. Ça aurait été nous, on aurait essayé de faire la part des choses pour répondre aux besoins de Marthe et puis tout en en poussant Marie à faire quelque chose. Mais cette réponse de Jésus, c'est le cœur, je crois, de l'enseignement qu'il donne dans ce passage ici. De quoi s'agit-il? Il parle de la seule chose qui est nécessaire. Et Jésus la présente comme importante par-dessus toutes les autres choses. S'asseoir aux pieds du Seigneur pour écouter sa parole. C'est la seule chose nécessaire. Et Jésus montre ici que l'attachement à lui et à son enseignement est ce qu'il y a de plus important et la seule chose nécessaire dans toute la vie. Alors le cœur de l'enseignement de Jésus, c'est quoi? C'est pas ici d'opposer Marthe et à Marie. C'est pas de dire il y a des gens qui sont comme Marthe, des gens qui sont comme Marie, puis voilà comment il faut faire. C'est pas de transformer une Marthe en un mari, une Marie en une Marthe. C'est pas ce qu'il veut faire. Mais il veut enseigner certainement ceci, c'est que l'attachement, on pourrait dire la dévotion, c'est l'attachement. La dévotion à Jésus-Christ est la priorité suprême du chrétien. La dévotion à Jésus-Christ est la priorité suprême du chrétien. Et le titre de notre méditation ce matin, c'est la priorité de la dévotion à Jésus-Christ. La priorité de la dévotion à Jésus-Christ. On veut considérer peut-être trois choses, trois aspects. C'est d'abord ce qu'est la nature de la vraie dévotion à Christ. Et puis, ce qui peut être des obstacles aussi à la vraie dévotion à Christ. Et puis, quelle est la promesse ou quelles sont les promesses d'une vraie dévotion à Jésus-Christ. Alors d'abord, la nature d'une vraie dévotion à Christ. Ici, le texte dit que Jésus va dans une maison et puis il est accueilli par Marthe qui était certainement peut-être plus âgée puisqu'on dit qu'il entre chez il entra dans le village. Dans un village, et une femme nommée Marthe l'a reçue dans sa maison, donc on peut supposer peut-être qu'elle était, c'était sa maison, elle était la plus âgée, le texte ne dit pas plus, donc on ne va pas en dire plus, mais ce qui est important ici, c'est qu'elle avait une sœur, dit le texte, qui nommée Marie, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutaient sa parole. Et c'est ce que Marie fait que Jésus qualifie comme étant la chose nécessaire. Et donc, c'est là-dessus que nous voulons nous focaliser ce matin. Et on peut dire d'emblée ici que la dévotion que Jésus loue, que Jésus honore, c'est celle qui consiste à être assis à ses pieds pour écouter sa parole. Être assis à ses pieds pour écouter sa parole. La Bible parle plusieurs fois de Marie, cette Marie-là, et chaque fois qu'elle parle de Marie, on la trouve aux pieds de Jésus. Trois fois, on la trouve aux pieds de Jésus. Rappelez-vous, lorsque Jésus va à Béthanie, parce que les sœurs Marthe et Marie l'ont fait chercher, leur frère Lazare est malade, et elles veulent que Jésus vienne pour le guérir. Eh bien, Jésus prend 4 jours, il prend du retard, après il vient ici et à Béthanie. Et quand il arrive dans Jean chapitre 11, verset 32, je vous lis, il dit « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, donc elle vient à la rencontre de Jésus quand il est presque arrivé au village, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marthe aussi, tombe aux pieds de Jésus quand elle la voit. Et après la résurrection de Lazare, dans le prochain chapitre, dans Jean chapitre 12, au verset 3, nous lisons ceci. Marie, donc Jésus est dans la maison de Marthe et de Marie. On dit que Lazare était là aussi avec eux. Marthe et Marie préparent le souper, servent à Jésus et à ses disciples. Et puis à un moment donné, il dit Marie, ayant pris une livre de parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle les essuya. Elle essuya ses pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'est la deuxième fois. Et ici, dans notre texte, on trouve Marie qui se place volontairement aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. Et être aux pieds d'un maître, c'est l'image par excellence du disciple, n'est-ce pas? Le disciple se place aux pieds du maître pour être instruit par le maître. L'apôtre Paul, quand il donne un témoignage en Actes chapitre 22, je crois, il dit ceci, je n'ai pas relevé la référence là, mais il dit « Je suis né, juif, né à Tarse, en Cilicie, j'ai été élevé dans cette ville et instruit au pied de Gamaliel. » Ça, c'est l'image par excellence que l'on a du disciple et du maître. Le disciple se place au pied du maître. Il n'est pas en face à face, il n'est pas en vis-à-vis. Il est dans une position qui est différente. Il y a le maître, il y a le disciple. Et c'est ce que Jésus attend de chacun d'entre nous, ce qu'il dit à Marthe. Il dit, ça, c'est une position, pas simplement une position physique qu'il faut adopter, mais une position spirituelle. Spirituellement, se placer aux pieds du Seigneur pour être enseigné par sa parole. Et c'est cette attitude que Jésus demande. C'est être dans cette attitude où on ouvre son cœur dans une soumission à celui qui est le maître pour recevoir de lui ce qu'il veut nous enseigner. Et donc la vraie dévotion, on pourrait dire, consiste à avoir cette attitude de cœur, spirituelle de cœur, qui consiste à se mettre aux pieds du Seigneur Jésus-Christ pour écouter sa parole. Un peu comme Samuel qui disait « Parle, ton serviteur écoute ». Il est là, c'est quelqu'un qui se met en dessous et puis qui ouvre son cœur pour recevoir. Ça, c'est un premier aspect. Mais le deuxième aspect de cette nature de la vraie dévotion, c'est que la vraie dévotion se mesure aussi dans la relation que l'on entretient avec le Seigneur par sa parole. Marie n'était pas simplement assise aux pieds du Seigneur. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était assise et Elle écoutait. Ce n'est pas juste une posture, mais c'est une attitude, une écoute de la parole de Dieu. Et il ne faut pas se méprendre ici sur les paroles de Jésus. Il n'est pas en train de dire qu'il faut être dans une contemplation où on ne fait rien du tout, où on oublie tout, où on s'isole simplement et puis le reste du monde ne compte plus. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire, mais il est en train de dire qu'il faut savoir prendre le temps de se placer à ses pieds pour pouvoir être instruit par lui. Il dit que le vrai service pour le Seigneur, le vrai service pour le Seigneur consiste à se donner, à donner à l'écoute de sa parole la priorité. Il dit à Marie, une chose est nécessaire. Et l'écoute de la parole de Dieu doit avoir la priorité. Le cœur de la vraie dévotion, dans le cœur de la vraie dévotion, il y a un attachement au Seigneur et à sa parole. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Hein. Pas un attachement au fait de faire des choses, mais un attachement à la personne même de Christ et à ce qu'il dit. Je ne peux pas être attaché à Christ sans être attaché à ce qu'il dit. Et je ne peux pas être attaché à ce qu'il dit sans être attaché à lui. Hein. Jésus veut que l'on soit attaché à lui. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc celui qui est attaché à lui, qui dit j'aime Christ, doit aimer les commandements de Christ, doit aimer sa parole. Il doit aimer lire la parole. Il doit aimer méditer la parole. Il doit aimer recevoir la parole. Il doit aimer aller dans les lieux où la parole est annoncée. Tout cela est important. Jean 14, 21, Jésus dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Donc on peut clamer haut et fort, « J'aime le Seigneur. » Il dit, « Quel rapport avez-vous avec ma parole ?» Et c'est la question pour nous ce matin. Quelle part faisons-nous à la parole de Dieu ? Quelle place donnons-nous à la relation avec Jésus-Christ ? Quelle est notre véritable dévotion ? Est-ce que nous sommes plutôt enclins à faire les choses ou est-ce que nous cherchons vraiment la relation véritable avec Jésus-Christ ? Jésus dit, la Bible dit qu'il y avait une sœur qui nommait Marie. Elle s'est assise aux pieds du Seigneur et elle écoutait sa parole. Et Jésus dit ça, c'est une bonne chose que Marie a faite. Il le dit à Marthe, il le dit aussi à nous. Donc la vraie dévotion consiste à avoir cette relation avec Christ à travers la parole même de Jésus-Christ. Donc quand on ne lit pas la Bible, et souvent on peut poser à des personnes des questions, hein, est-ce que tu lis la parole de Dieu ? J'avoue que depuis quelque temps, voilà, j'ai abandonné, j'ai délaissé de côté. Mais j'aime le Seigneur. Mais Jésus dit, c'est impossible. C'est impossible. L'amour pour lui passe par la soumission à lui dans sa parole. La recherche de sa connaissance à travers sa parole. C'est par sa parole qu'il se révèle à nous. Et on ne peut pas le connaître autrement que par sa parole. Et on ne peut pas lui plaire autrement que de nous attacher à sa parole. Et il veut que nous soyons dans cette attitude où nous l'écoutons, pas laquelle nous parlons. Parfois, on peut parler beaucoup. Hein. La parole, ce n'est pas nous qui devons l'avoir. C'est lui qui l'a. Nous devons l'écouter. Je crois que c'est dans Ecclésiaste, il dit, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de l'Éternel. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. » C'est-à-dire le fait de parler beaucoup. Il dit « Que tes paroles soient peu nombreuses, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. » Et donc on s'approche de lui pour écouter. Comme Marie. Marie, elle dit rien, on ne l'entend pas ici. Hein. Par contre, Marthe, on l'entend un petit peu. Hein. Mais, et elle est dans une attitude où elle se laisse pénétrer par l'enseignement de Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Alors, je ne sais pas, hein, parfois on oppose les deux, et puis imaginez que c'était chez vous, quelle attitude auriez-vous adopté? Seriez-vous plutôt comme Marthe ou plutôt comme Marie, hein? Il y en a qui vont dire, oh, moi je pense que je serais plutôt comme... Allez, je suis honnête, je serais plutôt comme Marthe, hein? Puis d'autres qui disent, mais non, je serais plutôt comme Marie, je pense quand même. Parce que... Et puis en plus, c'est le Seigneur. Imagine le Seigneur qui rentre chez moi. Oh, c'est normal. Je vais m'asseoir et puis je vais écouter sa parole. Le problème est qu'on sait toujours ce qu'on aurait fait lorsqu'on n'est pas dans la situation. Hein. Ce qui montre ce que nous aurions fait si Jésus était là et qu'il parlait, c'est ce que l'on fait maintenant avec sa parole. Si maintenant je ne prends pas sa parole pour la laisser me parler, je n'aurais pas fait non plus, même s'il était là. C'est ça qu'il faut se dire. Hein, il ne faut pas croire que le fait de le voir aurait changé quelque chose. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, nous saurons ce que nous... Nous pouvons avoir une idée de ce que nous allons, que nous aurions fait en jugeant ce que nous faisons aujourd'hui avec sa parole, en jugeant de l'importance que nous donnons à sa parole, que nous donnons à la réunion pour écouter sa parole, à tout ce que nous pouvons faire pour être instruits dans sa parole. C'est ça qui nous donne une mesure de ce que nous aurions fait dans d'autres circonstances. J'ajoute aussi que la vraie dévotion à Christ résulte d'un choix. La Bible dit, elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Le texte suggère, et les quelques commentateurs le font remarquer, que Jésus n'est pas arrivé dans la maison, et puis une fois qu'il est rentré, Marie s'est assise tout de suite, et puis Marthe est partie à la cuisine. Il semble plutôt dire que Marie, elle est venue s'asseoir. Donc elle a commencé par aider, on peut imaginer cela, hein, comme ça se passe souvent, elle a commencé par aider. Et puis après, Jésus enseigne à ses disciples. Hein, et vous savez, les rabbins avaient des disciples qui s'asseyaient à leurs pieds, mais jamais des femmes. Hein, ils n'enseignaient pas aux femmes ici. Et donc, certainement, Jésus vient, il rentre avec ses disciples, il enseigne à ses disciples. Et puis Marie, elle travaille, on peut imaginer ça, et puis elle entend un peu la discussion, et puis elle dit... Je veux écouter ça. Hein. Et puis après, elle va petit à petit, je ne sais pas, elle peut imaginer, elle vient avec quelque chose qu'elle sert, elle sert quelque chose, et puis après, elle reste là, elle s'assoit aux pieds, et elle écoute. Et donc, elle a fait un choix. Elle a fait un choix. Et Jésus le dit plus tard, il dit, Marie a, verset 42, elle a fait quoi? Elle a choisi la bonne part. Et la vraie dévotion découle, résulte d'un choix volontaire. Je vous ai dit tout à l'heure que par trois fois, on trouve Marie au pied du Seigneur Jésus-Christ. La première fois, on a lu dans l'évangile de Jean, c'était à cause de sa tristesse, n'est-ce pas? Elle vient, son frère est mort, Jésus arrive et elle tombe en larmes à ses pieds et puis elle lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et puis la seconde fois, c'est avec son parfum, elle vient pour l'adorer. Elle est reconnaissante. Lazare est là, à table, au chapitre 12, et elle est certainement pleine de reconnaissance et de gratitude. Et elle vient et elle verse son parfum sur les pieds de Jésus. On pourrait dire ici que dans ces deux cas, les circonstances l'ont poussée aux pieds de Jésus. La tristesse, et puis la joie, la reconnaissance, le fait que son frère soit là, sont des choses qui l'ont poussée un peu presque naturellement aux pieds de Jésus. Mais là, et dans l'histoire que nous lisons, elle fait un choix volontaire. Elle fait un choix délibéré de quitter ça, quelque chose, pour venir et écouter la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Et donc, on voit ici que la dévotion aussi résulte d'un choix. On ne sera pas dans cette attitude d'écoute par accident ou naturellement. Il faudra choisir. Et choisir, ça, c'est difficile. Je ne sais pas si vous le sentez, mais c'est un choix qui est difficile. Il nous semble toujours plus urgent de faire des choses que d'écouter la parole de Dieu. Que d'écouter Dieu. Je vais vous dire, il semble parfois plus urgent de passer beaucoup de temps à préparer un sermon que de passer du temps à écouter le Seigneur. Je peux vous le dire. Et on est comme ça. Le fait de faire des choses, ça nous démange davantage que le fait de rester calme et d'écouter et de laisser le Seigneur nous parler. Et pourtant, le Seigneur dit, voilà, c'est ce choix-là qu'il faut faire. Et quelqu'un disait ceci une fois, il disait, vaut mieux un cœur bien préparé qu'un sermon bien préparé. On peut préparer son sermon sans que son cœur soit préparé. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas le sermon bien préparé, c'est le cœur qui s'assoit et qui écoute sa parole. Et donc, la vraie dévotion découle d'un choix. Il n'y aura pas de vraie dévotion au Seigneur sans choix délibéré de se mettre spirituellement au pied du Seigneur pour écouter sa parole, pour se soumettre à sa parole jour après jour, après jour, après jour. Et puis aussi, j'ajoute que la vraie dévotion, eh bien, elle se conforte aussi dans la pensée qu'il y a une seule chose qui est nécessaire. C'est ce que je lui dis. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marthe pensait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient nécessaires à faire. Elle s'inquiétait pour beaucoup de choses, mais le Seigneur lui dit qu'il n'y en a qu'une qui est vraiment essentielle à la vie. Et c'est toujours la même chose. C'est Jésus-Christ. C'est le salut en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas au Seigneur, la seule chose qui est nécessaire, c'est de connaître Jésus-Christ, de se repentir et de venir à lui, d'être sauvé, d'être mis au bénéfice de la grâce de Dieu. Mais si vous êtes à Jésus-Christ, la seule chose qui est encore nécessaire, c'est aussi Jésus-Christ que vous pouvez connaître à travers sa parole, avec lequel vous pouvez avoir une relation, une intimité à travers sa parole. Il nous semble dans la vie qu'il y a beaucoup de choses d'importantes, n'est-ce pas? Beaucoup de choses de nécessaires. Et parfois, on dit souvent, j'ai pas le temps. Ça, c'est notre expression, je n'ai pas le temps. Ou j'ai beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai des étudiants, ils sont étudiants. Normalement, donc leur chose nécessaire, c'est quoi? C'est de faire des études. Et quand ils s'absentent, je dis, mais pourquoi vous n'étiez pas en cours? Ils me disent, j'avais des choses à faire. Je ne comprends pas qu'on ait des choses à faire. Pour eux. Et on est comme ça, même en tant que chrétien parfois. Ah, je ne t'ai pas vu là. Ben, tu sais, j'avais pas mal de choses à faire. Et on est resté à la maison parce qu'on a des choses à faire. Qui nous semble plus importante que ce que Jésus déclare être la nécessité ici? Mais lorsque la maladie nous atteint, que notre corps devient fatigué, n'est-ce pas? Il nous semble que la nécessité des choses diminue à proportion de l'augmentation de notre maladie ou de nos incapacités. On commence à réfléchir davantage et notre esprit se resserre peut-être davantage sur finalement ce qui est nécessaire. Je me souviens de ce frère qui est auprès du Seigneur et maintenant il y a longtemps, il est mort jeune d'une leucémie. La Martinique était venue ici, il a passé du temps à l'Institut Gustave Roussy. Et qui disait, quand j'étais en Martinique, il disait, ah, c'était la mer, les jet skis, tout, moi, c'était ces choses qui étaient importantes. Il fallait faire ceci, le sport, toutes ces choses. Il y avait beaucoup de choses. Il avait un restaurant en plus. Et puis là, il était cloué sur un lit d'hôpital. Et il savait qu'il allait mourir. Et entre-temps, il avait donné son cœur au Seigneur. Il dit, maintenant, je sais que toutes ces choses n'ont aucune nécessité. Que la seule chose importante, c'est vraiment de connaître Jésus-Christ. Mais il a fallu arriver parfois à cette extrémité-là pour se rendre compte de cela. Eh bien, n'attendons pas que la maladie nous enseigne cela, mais croyons le Seigneur Jésus-Christ quand il nous dit maintenant, même quand nous sommes jeunes et qu'on pense qu'on a la vie devant soi et qu'il y a tant de choses importantes, que la seule chose nécessaire, c'est d'être à Jésus-Christ. Et c'est d'être dans cette attitude de dévotion, d'attachement à sa personne à travers sa parole. Je demande une chose, dit le psalmiste, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Qu'est-ce que vous désirez le plus? Faire des choses? être un orateur, une oratrice pour le Seigneur, être, je sais pas moi, un personnage important qui va écrire plein de choses, je ne sais pas. Hein. Ce n'est pas qu'on ne peut pas avoir des ambitions, mais le psalmiste dit, je désire une chose, une chose. Contempler la magnificence de l'Éternel. Et l'apôtre Paul dit, je fais quoi? Combien de choses? Une chose. J'oublie ce qui est en arrière. Et qu'est-ce qui est en arrière? Vous savez ce qui était en arrière? Il y a toute sa vie de pharisien. On a lu dans Philippiens chapitre 3 tout à l'heure. Hein? Toute sa vie de pharisien avant, mais aussi tout ce qu'il a fait comme implantation d'église. Hein? Tout ce qu'il a fait comme en tant que missionnaire. Il a fait beaucoup de choses, l'apôtre Paul, plus que aucun de nous n'en fera jamais. Et pourtant, il dit tout cela, je regarde tout cela comme de la boue. À cause de quoi? De l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Je fais une chose, je me porte vers ce qui est en avant. Et ce qui est en avant, c'est Jésus-Christ. Il dit, je tâche de saisir Jésus-Christ. Il dit pas, je tâche de saisir des choses à faire. Je tâche de saisir Jésus-Christ. Parce qu'il a compris que la vraie dévotion saisit vraiment ce qui est la seule chose nécessaire. Donc ça, c'était un peu pour présenter la nature de la vraie dévotion. Mais dans ce texte, on voit qu'il y a aussi des obstacles à la vraie dévotion. Il y a à Jésus-Christ. Verset 40, regardez le verset 40 de Luc chapitre 10, dit « Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » On peut dire que Marthe est dans une attitude où voilà, elle n'est pas vraiment en train de s'attacher au Seigneur. On a coutume, c'est vrai, parfois d'opposer Marthe et Marie dans ce texte, et puis à faire de chacune d'elles des modèles. Modèle de l'activité et du service, et puis l'autre modèle de la contemplation et de l'adoration. Mais ce n'est pas l'enseignement de Jésus dans ce texte. Marthe est une femme qui aime le Seigneur. Marthe est une femme qui est sensible aux besoins des autres. Marthe est une femme qui est aimante, qui aime les autres et qui aime les servir. Donc on ne jette pas la pierre à Marthe ici. Elle aussi, elle s'est jetée, on l'a dit, aux pieds du Seigneur quand son frère, quand Jésus est venu les visiter à Béthanie. Et au chapitre 12, quand on regarde après, elle est là en train de servir encore. C'est une femme hospitalière qui ouvre sa maison et le Seigneur aime Marthe. La Bible dit clairement dans Jean chapitre 11 que le Seigneur aimait Marthe. Il aimait aussi Lazare et il aimait aussi Marie. Et donc, Marthe n'est pas le modèle de la femme non spirituelle qui est affairée. D'accord. Mais elle est cette femme qui aime et qui veut servir, mais peut-être qui a du mal à placer la bonne priorité ici. Et c'est quoi l'obstacle que peut connaître une vraie dévotion à Christ? L'obstacle à une vraie dévotion à Christ. Ici, on en voit au moins un. Parfois, le service pour Christ peut être un obstacle à la dévotion pour Christ. Le service pour Christ peut être un obstacle à la dévotion pour Christ. Le verset 40 dit, Marthe était occupée à divers soins domestiques. Mais je vous lis le verset dans la version Darby. Il dit, Marthe était distraite par beaucoup de services. Vous voyez ici? Elle était encombrée, d'autres textes disent, par beaucoup de services. Elle était affairée par beaucoup de choses. Et donc, elle s'est donnée pleinement au service de Jésus et de ses disciples. Et ce n'était pas mauvais en soi, il fallait préparer le repas, il fallait faire des choses. Mais le problème, c'est que tout cela l'a distrait. Le mot distrait, ça veut dire ça l'a tiré dans une autre direction. Okay. Et c'est terrible ça, parce qu'elle est absorbée par ce qu'elle fait, au point qu'elle n'en peut plus et que ça devient une charge pour elle, et qu'elle est distraite même de la personne du Seigneur Jésus. Marthe est distraite du Seigneur alors qu'elle sert le Seigneur. Et ça, c'est possible. On peut être distrait d'une véritable dévotion alors que l'on fait tous ses efforts pour servir le Seigneur. Il ne faut pas croire que on est en sécurité parce que l'on s'épuise à faire des choses. Parfois, on voit quelqu'un qui fait beaucoup de choses. On dit, ah, il aime le Seigneur, il est toujours là, il sert, il fait des choses, il est dans l'église, il a toujours, on a besoin d'aide, il répond présent, on veut l'évangélisation, il est là, etc., etc. Et c'est pas que c'est une mauvaise chose. Mais il faut être très vigilant, pour ne pas croire, ne pas se tromper soi-même, et ne pas tromper les autres en faisant croire qu'on a une véritable dévotion parce qu'on est hyper actif. L'hyperactivité ou l'hyperactivisme n'est pas à confondre avec la dévotion au Seigneur. On peut préparer un repas pour Jésus et perdre Jésus. Le perdre de vue, hein. Et c'est ce qui arrive à Marie ici, à Marthe, pardon, ici. Il arrive parfois que des personnes qui devaient recevoir un orateur chez eux à manger, par exemple, hein, à midi, après le culte. Hein. Et cet orateur de passage arrive au culte, et puis ces personnes qui doivent le recevoir à midi sont tellement occupées à préparer leur repas pour bien... et la maison pour bien recevoir cette personne, qu'elle ne vienne pas au culte, écouter le message apporté par ce même orateur. Ça arrive parfois. Et on ne se rend pas compte qu'on a été distrait de l'essentiel ici. Ah, recevoir, préparer, bien, c'était une chose à faire certainement, mais pas au prix de venir écouter ce que le Seigneur dit à travers cette personne. Mais parfois, nous pouvons agir comme cela. On est tellement préoccupé par le bien recevoir, n'est-ce pas, que l'on oublie qu'on est distrait du Seigneur. On est distrait du Seigneur. Et l'auteur d'Israël, il dit ceci, hein. Il dit, ce n'est pas seulement le péché ouvert ou les violations flagrantes des commandements de Dieu qui conduisent les hommes à la ruine éternelle, il s'agit bien plus fréquemment d'une attention excessive aux choses en elles-mêmes licites, bonnes. Quand on porte une attention excessive aux bonnes choses même, on devient distrait. Et on est, il dit, encombré de beaucoup de services. Ce qu'il dit ici de Marie. Marthe est encombrée de beaucoup de services. Il semble si juste, il dit, de subvenir aux besoins de nous-mêmes. Il semble si convenable de s'occuper des devoirs de notre poste. C'est juste ici que réside notre danger. Nos familles, nos affaires, nos appels quotidiens, nos affaires domestiques, nos interactions avec la société. Tout peut devenir un piège pour notre cœur et nous éloigner de Dieu. Nous pouvons descendre dans la fosse de l'enfer au milieu même des choses licites, des choses bonnes, au milieu même du service. Vous voyez, c'est important de considérer ça. On peut perdre Christ, dans le sens où on s'éloigne de lui, en étant dans un service ou dans le faire qui fait qu'on ne prend pas le temps de l'écouter, d'avoir la relation avec lui. Christ ne nous a pas sauvés, quelqu'un disait cela, pour qu'on soit des prédicateurs. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on soit des évangélistes qui parcourent la rue. Ce n'est pas pour ça qu'il nous a sauvés. Il a sauvés pourquoi ? Pour qu'on soit des adorateurs, le vrai adorateur. Il sert, il prêche, il témoigne. Mais ce n'est pas pour cela qu'il nous a sauvés. Vous avez remarqué, quand vous lisez, je ne sais pas si c'est dans Marc ou dans Luc, quand Jésus choisit les disciples, il dit pas il les choisit pour les envoyer. Il dit il les choisit pour être avec lui et les envoyer. Donc il y a d'abord la relation. Il les choisit pour Il choisit les douze, il faudrait rechercher la référence, je ne l'ai pas en tête, mais il choisit les douze pour être avec lui et pour les envoyer. Donc la première chose, c'est la relation, l'adoration. C'est pour ça qu'il choisit. Et c'est ce que nous devons aussi rechercher. Et donc il faut pouvoir entrer dans la présence du Seigneur sans être distrait par le service. Il faut servir sans être distrait par le service. Même le service pour Dieu ne doit pas nous distraire de Dieu. Il y a de nombreuses choses qui nous distraient, n'est-ce pas? Parfois, on vient au culte, on est distrait. Je sais que parfois, l'orateur peut avoir une voix monotone, etc., mais parfois, on ferme les yeux. Hein? On est distrait. Parfois, on lit la Bible dans son téléphone, et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a une notification qui arrive au moment du culte, et qu'est-ce qu'on fait? On lit la notification. On est distrait. Parfois, c'est chez nous qu'on est distrait. Le téléphone sonne. Je ne vais pas faire de sondage, mais parfois, on regarde la télé le dimanche matin avant de venir au culte. Voilà. On fait plein de choses comme ça. On arrive avec l'esprit encombré. Et on n'a plus ce temps comme Marie. Même Marie n'était pas toute seule, elle était avec les disciples, mais ce temps, quand on vient, on est distrait. Quand on est tout seul, on est distrait. Parfois, il y a tellement de choses qu'on trouve à faire. Il nous semble en sortir du lit qu'il faut déjà faire des choses. On remet parfois plus tard la lecture de la parole de Dieu. Au soir, le temps dans la présence du Seigneur. Mais finalement, on ne le fait pas parce qu'on est fatigué quand on rentre du travail. Et donc, on a de moins en moins ce temps de contemplation, ce temps seul, ce temps où on écoute simplement. Et c'est tellement important. C'est tellement important d'écouter. Jésus dit que c'est la seule chose nécessaire. Donc le trop de service, ça éloigne aussi de Christ. Et cela se manifeste, regardez comment ça se manifeste pour Marthe, elle rentre dans la pièce et elle dit quoi? Elle dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Cela conduit à premièrement, un aveuglement sur les réalités. Marthe dit quoi? Elle dit, quel est son premier mot? C'est Seigneur. C'est ce qu'elle dit. Hein? Le mot kurios, ça veut dire c'est Dieu. Le Dieu tout suffisant, tout puissant. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui fait un reproche. Seigneur, j'ai quelque chose à te reprocher. C'est ce qu'elle fait ici. Hein? D'accord? Quelqu'un disait, Marie est au pied du Seigneur, mais Marthe, elle est face à face. Hein? Et elle dit, Seigneur, j'ai quelque chose à te dire. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette situation. Alors on peut imaginer la belle image que c'est Marie, les disciples assis, Jésus qui enseigne. Hein, on ferait un tableau sur ça, ça serait bien, on collerait bien ça sur notre mur. Mais pour Marthe, ce n'est pas du tout la situation. Hein? Pour elle, elle rentre et le Seigneur ne fait pas ce qu'il doit faire. Là. Elle lui reproche de ne pas avoir soin, de ne pas avoir compassion d'elle, de ne pas s'inquiéter même de la situation. Un peu comme les disciples dans le bateau, vous rappelez, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Jésus, c'est Dieu incarné. Pourquoi est-ce qu'il est Dieu incarné? C'est parce qu'il a vu notre misère, qu'il est venu pour compatir à notre faiblesse et pour prendre soin de nous. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais vous voyez dans quel aveuglement on tombe quand on n'est pas dans l'esprit de dévotion et qu'on est dans l'activisme, eh bien, on est aveuglé sur les réalités, même spirituelles, même sur le Seigneur. Hein. On appelle Seigneur alors qu'on lui donne des ordres, des reproches et des ordres. Il dit au Seigneur, dis à ma sœur de m'aider. Elle ne dit pas, Ips, Marie, je suis désolé. Pour ne pas déranger les autres. Non, elle rentre dans la salle et puis elle dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle dit, Seigneur, elle dit, dis-lui de venir m'aider. Il ne parle pas à Marie. Donc, à qui elle fait le reproche? Au Seigneur. De toute façon, quand on se plaint de quelqu'un, on se plaint toujours du Seigneur. Lorsque le peuple murmurait contre Moïse, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Ne t'inquiète pas, c'est pas à toi qu'ils en veulent, c'est à qui ils en veulent. C'est à moi, c'est pas contre toi qu'ils murmurent, c'est contre moi qu'ils murmurent. Parce qu'on murmure toujours contre celui qui peut quelque chose. Jamais contre celui qui ne peut pas quelque chose. Et il est en train de dire, tu aurais pu lui dire de faire ça, tu ne lui dis pas de faire ça, tu es fautif. J'exagère un peu, elle ne dit pas comme ça, mais c'est un reproche quand même qu'elle fait au Seigneur. Et elle est aveuglée sur cette réalité-là. Et quand on commence à être ainsi, à accuser les autres, à regarder que les autres ne font pas, que je suis seul à faire à l'église, d'autres auraient pu faire, pourquoi les autres ne font pas? Oh Seigneur, pourquoi tu n'envoies pas d'autres personnes pour le faire aussi? Pourquoi tu ne secoues pas ce frère pour qu'il puisse faire ça et venir m'aider? C'est qu'on est encombré. Hein? Quand on commence à critiquer les autres, on critique le Seigneur et ce qu'on est encombré. On a confondu le fait de faire des choses avec le fait d'être au pied du Seigneur. On n'a pas respecté les priorités. Donc ça nous permet de nous juger nous-mêmes. Et ça nous arrive, je crois, parfois. Et puis Jésus dit qu'elle est inquiète, je vais aller vite là, et agitée. Mais notons tout d'abord comment Jésus lui parle. Marthe, Marthe. Il dit par deux fois, Marthe, Marthe. La répétition est une marque d'affection profonde. Quand dans la Bible, il dit, on prononce deux fois, David, quand son fils Absalom est mort, il dit, oh Absalom, Absalom. Par deux fois, il le dit. Et souvent dans la Bible, quand il y a des répétitions comme cela, c'est une manière d'exprimer l'émotion forte et l'affection. Par exemple, Jésus, en Matthieu 7, il dit, c'est pas ceux qui disent, il dit, à la fin, hein, vers la fin des temps, les gens viendront et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des choses, etc. Et dire, c'est pas parce que vous dites Seigneur, Seigneur, avec beaucoup d'emphase, beaucoup d'émotion, qu'il y a une réalité. Et il dit ceci aussi, hein, il dit, pourquoi m'appelez-vous, dans Luc 6, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? D'un côté, vous montrez cette émotion, cette affection, en disant, Seigneur, Seigneur, et de l'autre côté, vous ne faites pas ce que je dis. Vous n'obéissez pas à mes commandements. Donc, votre affection verbale ne correspond pas à la réalité puisque vous ne vous attachez pas à mes commandements. Donc, la double répétition ici est une marque d'amour et d'affection. Jésus montre son amour pour Marthe et son affection profonde pour elle. Il ne la blâme pas, mais il la met face en réalité. Il lui dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et c'est ce à quoi conduit vraiment le manque de dévotion véritable, à une inquiétude, à une agitation. Et la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Et des prières, des supplications, avec action de grâce, ça consiste à se mettre au pied du Seigneur et à lui dire les choses. Tout simplement. Et il dit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la paix de Christ qui surpasse toute intelligence va envahir votre cœur et votre pensée. Donc voilà, si on ne fait pas attention, on va vers ces obstacles à la véritable dévotion. Et puis je termine en disant ici, mais Jésus dit aussi qu'il y a des promesses à une vraie dévotion à Jésus-Christ. Marie, dit-il, verset 42, a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et qu'est cette bonne part? Bien sûr, c'est le fait d'être assis au pied du Seigneur Jésus-Christ. Mais il dit que ça contient une promesse. Le fait de faire cela, ça ne sera point ôté. Cela aura une répercussion dans la vie. Lorsque nous quitterons ce monde, eh bien, on aura plein de choses qu'on aura faites, ça nous sera ôté. Okay. Mais la Bible dit que ceux qui auront fait la volonté du Seigneur, ils demeureront éternels. Éternellement. Et ceux qui auront choisi cette part que choisit Marie, qui auront pris le temps de rechercher Christ dans l'intimité, véritablement, eh bien, gagneront quelque chose qui ne leur sera point ôté. Qu'est-ce qui ne leur sera point ôté? Le salut ne sera point ôté, de toute façon, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que ce que Dieu fait, l'œuvre de Dieu, c'est qu'il nous transforme en l'image de son fils. En Romains chapitre 8, nous trouvons ça. Nous sommes préoccupés par ce que nous faisons, nos actions, notre œuvre pour Dieu. Mais n'oublions pas que Dieu, il a une œuvre qu'il veut faire en nous. Et il est plus préoccupé par ce qu'il veut faire en nous que par ce que nous voulons faire pour lui. Et ce qu'il fait en nous, c'est de nous transformer en l'image de son Fils. Et 2 Corinthiens 2, 3, verset 18 dit ceci. Il dit que c'est au pied de Jésus, dans la contemplation et dans l'adoration, que va s'accomplir vraiment notre sanctification. La croissance à la ressemblance du Seigneur, qui est le projet de Dieu pour nous, va s'accomplir dans la contemplation de Christ, dans l'adoration. Alors, 2 Corinthiens 3, 18 dit ceci. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Et c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit, de nous transformer. Mais pour être transformé dans cette manière, il faut être dans cette attitude où nous contemplons Christ dans sa personne, dans son œuvre, à travers sa parole, où nous nous mettons à écouter, à recevoir, à nous laisser transformer par sa parole. Dans une société où nous vivons, où il faut faire des choses, hein, où l'action est importante. Hein. On parle déjà en termes d'être productif. Il faut produire, il faut faire des choses. On n'a pas le temps de s'asseoir et d'écouter. Hein. Vous écoutez les informations, il n'y a que les gens qui parlent. Hein. Et les gens parlent tellement, ils parlent tellement, on a envie de parler que tout le monde parle en même temps, on ne comprend plus rien. N'est-ce pas? Et quand quelqu'un écoute, il cherche le petit espace où il peut rapidement plonger pour parler. Mais la Bible nous invite à écouter, à prendre le temps d'écouter le Seigneur silencieusement, à nous laisser pénétrer par sa parole, à avoir une vraie relation avec Jésus-Christ. Une vraie relation avec Jésus-Christ. Si on veut vraiment mieux servir notre Maître, il faut mieux l'écouter. Il faut venir là où sa parole nous est enseignée. Il faut nous-mêmes, dans la discipline personnelle, avoir du temps où nous l'écoutons sans rien d'autre à côté. Et je le dis, on pense à moi-même en premier, sans téléphone, sans choses qui vont venir, Internet qui vont venir nous distraire. Et où on peut se laisser pénétrer par sa parole. Parce qu'il veut être avec nous. Il veut faire de nous des adorateurs. Pour servir efficacement le Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas laisser ce qui nous semble urgent prendre le pas sur ce qui est important. Et on voit ici dans ce texte que le Seigneur est intéressé non par ce que je fais, mais par aussi comment je le fais. Il n'est pas contre le fait de servir. Il n'a pas dit à Marthe de venir s'asseoir. Il n'est pas contre le service que faisait Marthe à la cuisine. Il parle contre la place qu'a pris ce service par rapport à autre chose. Et ce que ça a engendré comme attitude de frustration et de distraction. Marie, on pourrait dire, offre un culte là où Marthe offre un service. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on offre un service à travers le culte. Et que la dévotion à Christ, c'est le fondement même du véritable service à Jésus-Christ. On peut servir sans dévotion, mais on n'est pas dévoué sans servir. Alors que le Seigneur nous aide à être dévoués à lui, comme il nous le commande. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et pour ton enseignement. Et nous reconnaissons que nous avons besoin d'apprendre à mieux t'écouter, à mieux te laisser nous parler à travers ta parole. Soit dans notre sphère privée ou quand nous sommes aussi ensemble, les uns avec les autres, ou dans nos rencontres d'assemblée. Nous te prions, Seigneur, que tu nous aides à mesurer l'importance de ces paroles. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Aide-nous à faire ce choix chaque jour. Le choix de t'écouter, le choix d'être avec toi. Qu'aucune urgence ne viennent nous ravir cette nécessité d'être avec toi, à tes pieds, pour écouter ta parole et nous laisser transformer afin que nos pensées, nos manières de réfléchir, nos décisions puissent être empreintes de ta parole et de ton esprit. Nous te prions, Seigneur, pour que ta parole puisse encore toucher les cœurs aujourd'hui, ceux qui ne sont pas à toi, qu'ils puissent les attirer, que tu puisses les sauver et que tu puisses les conduire dans ta bergerie. Nous te demandons ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.